Si je vous adresse quelques réflexions au sujet de la mort ce soir, c'est pour une raison profondément personnelle. Je suis atteint d'une maladie terminale. Vous êtes invité à écouter pour exactement la même raison. Vous êtes atteint d'une maladie terminale, vous aussi. Nous ne nous trompons jamais dans notre pronostic sur l'issue de cette maladie. La vie est toujours mortelle. Personne n'en sort vivant. Saint Augustin disait dans un de ses sermons, quand les médecins ont visité un malade et que sa maladie leur semble mortelle, il en mourra, disent-ils, il n'en échappera point. De même, on doit dire, dès la naissance d'un homme, qu'il n'en échappera pas non plus. Je vous invite à faire avec moi, ce soir, un voyage dans le pays de la mort. Ce pays, disait Shakespeare, inconnu, dont nul voyageur ne revient. Qu'est-ce que la mort? Pourquoi mourons-nous? Ce sont là des questions que se posent le poète, le philosophe, le mystique et l'enfant. Ce sont des questions que se posent le poète, le philosophe, le mystique et l'enfant qui sont dans chacun de nous. Nous nous posons toujours ces questions parce qu'il est évident que nous n'avons pas fini d'y répondre. La mort, ce sphinx perfide au sourire douteux, attend toujours que nous fournissions la solution de l'énigme. Cette conférence ce soir ne risque pas de la fournir. Son but consiste à stimuler la réflexion et la recherche, et non pas d'y mettre un terme. Il se peut que la seule chose que nous voyons claire au sujet de la mort, c'est que nous ne pouvons pas y voir clair. Il se peut que la seule sagesse que nous pouvons avoir au sujet de la mort, c'est la sagesse de Socrate, la conscience de notre propre ignorance. C'est là, en tout cas, qu'il faut prendre notre point de départ. La question du sens de la mort nous met en présence d'une autre question. La question du sens de la vie. La mort met la vie en question. Don Quichotte décrit à son serviteur, Sancho Panza, le regard qu'il voyait dans les yeux des soldats agonisants qui mouraient dans ses bras. Don Quichotte dit, ses yeux semblaient lui poser une question. Alors Sancho lui dit, demandait-il, pourquoi est-ce que je suis en train de mourir? Don Quichotte répond, non. Il demandait, pourquoi est-ce que j'ai vécu? Le sens de la vie dépend de la sens de la mort, du sens de la mort. Si la mort n'a pas de sens, eh bien la vie, elle non plus, en dernière analyse, n'a pas de sens. Car la mort, c'est la dernière analyse. S'il n'y a rien au bout du chemin, c'est que le chemin ne mène nulle part. Cette alternative est inévitable. Ou bien la vie, dans son ensemble, la vie à long terme, a un sens, ou bien elle n'a pas de sens. Ce serait tricher de prétendre que la vie peut avoir un sens à court terme si elle est absurde à long terme. Nous ne saurons jamais pourquoi nous vivons tant que nous ne savons pas pourquoi nous mourons. Nous avons donc intérêt à essayer de découvrir le sens de la mort. Pour parler de la fin, c'est-à-dire la finalité et le sens du sens de la vie, soulève inévitablement une troisième question. la question de l'existence de Dieu. Car si Dieu existe, c'est lui le sens de la vie. Donc il peut exister des dieux, petits dés, qui ne sont pas le sens de notre vie. Il peut exister des espèces supérieures d'êtres vivants qui ont leurs propres affaires et leur propre destinée. Des anges, des esprits, des démons, des extraterrestres. Ils seraient tous des éléments de l'univers. Par contre, si Dieu existe, il n'est pas simplement un élément parmi d'autres de l'univers. Il est le sens et le but de tout. C'est là tout simplement la définition du mot Dieu. Un tel Dieu existe-t-il vraiment? Et si oui, qui ou quoi pourrait-il être? Parler de Dieu, c'est beaucoup, pour beaucoup de nos contemporains, ne parler de rien du tout, car ils n'ont aucune expérience de Dieu. Bien sûr, personne n'a une expérience empirique, tangible de Dieu. Par contre, la mort est bien une expérience empirique et tangible. Et la question de la vie après la mort est bien une question sur une expérience empirique et tangible. C'est l'expérience de tout défunt, de toute époque. La mort rend concrète la question de l'existence de Dieu. La question « Dieu existe-t-il ?» devient « Est-ce que je verrai Dieu ?» Ça, c'est une perspective assez saisissante. La perspective de rencontrer Dieu après la mort. La mort donne vie à la question de l'existence de Dieu. Elle donne vie à un tas d'autres choses aussi. Nous avons perdu aujourd'hui toutes nos valeurs absolues, sauf une. Autrefois, nous avions Dieu, la vérité, la morale, la famille, la fidélité, le travail, la patrie, le bon sens et beaucoup d'autres. Peut-être trop. Mais actuellement, dans l'âge du relativisme absolu, il ne nous reste qu'une seule valeur absolue. La mort. La mort est le seul billet par lequel tout le monde peut aborder la question de l'absolu et la question de Dieu. Trois questions sont donc intimement liées les unes aux autres. La mort, la vie et Dieu. Et dans notre voyage d'exploration, il nous faudra donc emprunter ces trois pistes. Je ne peux pas garantir où cette exploration vous mènera si vous acceptez de vous embarquer avec moi. Par contre, je peux vous garantir qu'il n'y a pas de voyage plus important. Ce soir, j'aimerais regarder avec vous la question suivante. Pourquoi voit-on la mort comme un ennemi? La réponse est simple. Parce que la mort est un ennemi. L'apôtre Paul dit dans sa première épître aux Corinthiens, le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Un bon nombre de livres actuellement sur le marché, et surtout les livres destinés à expliquer, entre guillemets, la mort aux enfants, nient cette évidence. Ils disent que la mort est un phénomène tout à fait naturel, ça fait partie du cycle de la vie, et qu'il faut apprendre à accepter la mort. De tels livres cherchent à enlever à l'enfant la peur et le traumatisme de la mort. Ce qu'ils enlèvent, en fait, c'est la réalité de la mort. Il y a quelques années, j'ai lu l'histoire d'un petit garçon de 8 ans, dont le cousin est mort à l'âge de 3 ans. Alors, un jour, ce petit garçon demande à sa mère, « Où est-il maintenant, mon cousin ?» Mais cette femme n'était pas croyante. Et elle ne voulait pas faire l'hypocrite en disant que le petit cousin était au ciel. Et justement, elle venait de lire un de ses livres qui explique comment parler de la mort aux enfants. Donc, elle se lance dans son explication. Ton cousin est retourné à la terre, d'où nous venons tous. La nature est un grand cycle. La mort fait partie de ce cycle. Quand tu verras la terre faire germer les fleurs au printemps, tu sauras que la vie de ton cousin a servi d'engrais pour ses fleurs. Vous voulez savoir comment ce garçon réagit? Il commence à hurler, à pleurer et à crier. Non, je ne veux pas qu'il devienne de l'engrais. Et il se sauve en courant. Il est remarquable que toutes les mythologies du monde voient la mort non pas comme quelque chose de normal et de naturel, mais comme un accident, comme une erreur, comme une chute, comme une catastrophe qui aurait pu être évitée. Ce thème, le récit du paradis perdu, est universel et apparaît sous de nombreuses formes différentes. Adam et Ève mangent le fruit défendu. Pandore soulève le couvercle de la boîte. Un oiseau laisse tomber de son bec la baie magique de l'immortalité. La femme primordiale jette une pierre contre le ciel et en chasse les dieux. Et ce n'est qu'à ce moment-là que la mort fait son apparition. Mais pourquoi toutes ces variantes insistent-elles sur ce même thème du paradis perdu, de la mort comme anomalie? Nous avons beau admettre la nécessité de la mort sur le plan biologique, nous n'arrivons pas à ressentir la mort comme quelque chose de normal. Nous ne pouvons pas faire disparaître cette impression d'anormalité par des considérations d'ordre scientifique sur les cycles de la nature. L'homme n'a pas l'impression d'être de l'engrais recyclé. Sigmund Freud n'était en aucun cas le champion de mythe. Il était plutôt le champion de la raison humaine et de la science. Et voilà pourquoi Freud enseignait ceci, je cite, « Il faut se réconcilier avec la nécessité de mourir. » Cela n'est rien d'autre que la résignation face au destin, face à l'inévitable. Ce n'est pas du courage, comme elle prétend être. C'est de la lâcheté. Faut-il s'incliner devant la force brutale? Faut-il se réconcilier avec un ennemi méchant simplement parce que c'est lui le plus fort? Ça, c'est la philosophie du collabo. Ça, c'est la philosophie de ceux qui acceptent passivement les tyrans. Or, la mort est un tyran. La mort cherche à nous tyranniser. Et la mort est plus forte que nous. Elle gagne à tous les coups. Dans la Coupe du Monde qui oppose l'équipe de l'humanité contre l'équipe de la mort, l'humanité n'a pas gagné un seul match. La mort gagne à tous les coups. Par conséquent, nous n'avons que deux possibilités. Ou bien lutter du bon côté et perdre, ou bien lutter du mauvais côté qui gagnera. Si nous sommes courageux, nous sombrerons avec le navire. Car c'est un bon navire. C'est le navire de l'homme. C'est le vaisseau de la vie. Si nous sommes des lâches, nous abandonnerons le navire. Et nous chercherons à faire la paix avec l'ennemi. Le courage ne consiste pas à se réconcilier avec la nécessité de mourir. Le courage consiste à dire, avec le poète anglais Dylan Thomas, qui dans un de ses poèmes conjure son père malade de tenir tête à la mort. Il dit, n'entre pas doucement dans cette bonne nuit. Tempête, tempête contre le jour qui s'évanouit. Ça c'est l'intégrité. Ça c'est le courage. Être un homme jusqu'au bout. Se battre du côté des hommes et de la vie et de Dieu, même si c'est le côté qui perdra. Nous savons que la mort gagnera. Mais le savoir ne signifie pas qu'il faut s'y résigner. Zorba le grec disait, « Moi je regarde à chaque instant la mort. Je la regarde et je n'ai pas peur. Pourtant, jamais, jamais je ne dis « ça, elle me plaît ». Non, elle ne me plaît pas du tout. Je ne suis pas d'accord. La mort est une perte. C'est la perte de l'être. L'ennemi mortel de l'être. C'est la réduction de l'être en non-être. La mort est l'annulation de la création. Elle défait, littéralement, ce qui a été fait par l'homme aussi bien que par Dieu. Que ce soit un tableau détruit par le feu, une nation détruite par la guerre, une âme détruite par le vice, ou un corps détruit par la maladie. La mort est l'ennemi de Dieu créateur. Elle défait l'œuvre divine de la création. Par conséquent, un homme qui est l'ami de Dieu devient forcément l'ennemi de la mort. Le psalmiste disait, Seigneur, comment ne pas haïr ceux qui te haïssent, ne pas être écœuré par ceux qui te combattent. Je les hais d'une haine parfaite. Ils sont devenus mes propres ennemis. Et n'allez pas imaginer que la mort est un sommet. Nous sortons du sommet inchangé. Mais même s'il y a une vie après la mort, nous n'en sortons pas inchangés. Même si nous nous réveillons de la mort, ce n'est pas pour retrouver notre vieux corps et notre vieux monde. Nous aimons à penser que mourir, c'est s'endormir. Cela nous réconforte. Mais c'est un mensonge. Le sommeil, c'est un repos pour les fatigués, c'est une détente. Alors que la mort, c'est une contraction extrême, c'est une rigidité, la rigidité cadavérique. Vu de notre côté de la mort, le cadavre paraît silencieux. C'est le néant total, le trou noir. Mais j'aimerais examiner avec vous un peu plus cette mort qui dit « Je suis votre ennemi ». J'aimerais regarder trois aspects, trois caractéristiques de la mort. Premièrement, la mort, c'est la perte de la lumière, une perte de lumière. Le visage de la mort que nous présentent les nombreuses mythologies et croyances humaines est remarquablement uniforme. La mort est toujours vue comme un endroit qui est en dessous de la terre. C'est un lieu de ténèbres et non pas de lumière. C'est sous la terre ou à l'intérieur de la terre. Par contraste au ciel, là où demeurent les dieux immortels. Les cadavres ont leur place dans un tombeau, un trou sombre au sein de la terre. En deuxième lieu, le temps qui est propre à la mort, c'est le passé et non pas l'avenir. En fait, la mort, c'est la fin de nos avenirs. Un jour, un journaliste a demandé à Jeanne Calment, hein, c'était la Française qui, il y a quelques années, était l'être humain le plus âgé de la Terre. Un journaliste lui a demandé, comment est-ce que vous envisagez votre avenir? Elle a dit, très court. La mort, c'est la fin de nos avenirs. C'est comme si on défaisait la naissance et la vie et la croissance et la nouveauté. C'est comme si nous n'avancions que pour être traînés en arrière vers ce néant où nous sommes sortis. Voilà pourquoi la mort est souvent assimilée au sommet. Elle n'est pas un sommet, mais elle y ressemble. C'est une perte de vivacité, une perte d'attention, une perte de conscience, une perte d'illumination. Le Bouddha s'appelait l'illuminé, l'éveillé. Ça, c'est le sens du mot Bouddha en sanskrit. Ce qui implique que nous autres, nous sommes endormis. Socrate se voyait comme une sage femme intellectuelle qui aide nos idées à naître à la lumière du jour. Vivre, c'est naître. Vivre, c'est s'éveiller. Mourir, c'est s'endormir dans le sein maternel, dans le rêve. Les poètes ont toujours su que le tombeau, le sein maternel et le rêve n'en faisaient qu'un en réalité. La mort est l'ennemi de tout ce qui est bon. La mort est l'ennemi de la vie, de la croissance, de l'éveil, de l'illumination, de la création et de l'être. Plus nous aimons ces choses, plus nous refuserons la mort. Plus nous refuserons de faire la paix avec leur ennemi. Plus vous aimez votre frère, plus vous haïssez la maladie qui détruit son corps. Plus vous aimez la vie avec courage et passion et loyauté, et bien plus vous refuserez simplement de faire la paix et d'accepter la mort. Donc, premièrement, la mort est une perte de lumière. Deuxièmement, la mort est inévitable. Dans un autre de ses sermons, saint Augustin nous demande de faire une petite expérience mentale. Écoutez, dit-il, les gens qui font des conjectures sur l'avenir d'un nouveau-né. Écoutez ce qu'ils disent. Parviendra-t-il à la vieillesse? Peut-être oui, peut-être non. Sera-t-il riche et couvert d'honneur? Peut-être oui, peut-être non. Sera-t-il malade ou peut-être dévoré par un animal sauvage? Peut-être oui, peut-être non. Prendra-t-il une femme? Aura-t-il une postérité? Peut-être oui, peut-être non. Considérez, dit-il, toutes les choses qui peuvent arriver à ce nouveau-né. De chacune d'elles, on peut dire, peut-être oui, peut-être non. Mais, pourriez-vous dire de la même façon, mourra-t-il un jour? Peut-être oui, peut-être non. Mourir, c'est pour chacun de nous la seule certitude. Nous nous trouvons enfermés à clé dans une voiture qui descend à toute vitesse une immense colline. On se dirige tout droit vers le bord de l'abîme. Nous n'avons pas de frein et le volant est verrouillé. À la naissance, nous sortons de nulle part, on nous dépose au sommet de la colline et nous commençons à dévaler la pente. Et nous tombons inévitablement à tous les coups dans l'abîme. Nous n'y pouvons absolument rien. Nous avons beau résister, nous avons beau tempêter contre la nuit finit toujours par tomber. La mort est inévitable. Et troisièmement, la mort est irréversible. Le roi David dit dans l'Ancien Testament, « Nous devons tous mourir un jour, et nous sommes alors comme de l'eau qu'on répand par terre et qu'on ne peut plus recueillir. » La mort est irréversible parce que le temps est irréversible et que la mort se situe dans le temps. La mort est irréversible même s'il y a une vie après la mort. En fait, le temps, c'est tout simplement un autre mot pour désigner la mort. Le temps fait de chaque acte une petite mort. Au moment où chaque acte est né dans le temps, il meurt et il devient une partie du passé. Le passé, comme on dit, mort et enterré. Le passé immuable. Le passé irréversible, le passé fermé. L'instant présent est le seul temps qui est vivant, le seul temps qui est ouvert. Mais lui aussi, il est mourant. En fait, l'instant présent meurt à l'instant de sa naissance. Le fleuve du temps est inconstant et capricieux. Tout ce qu'il nous donne, il nous le reprend. Des personnes, des objets, des expériences, des relations, des civilisations. Tout ce que le fleuve du temps, tout ce qui est emporté vers nous par ce fleuve, tout ce qui est apporté vers nous est emporté par le courant pour ne plus jamais revenir. Le philosophe grec Héraclite disait « Il n'est pas possible de se baigner dans le même fleuve. » Parce que tout coule, tout s'écoule. Le fleuve du temps submerge chaque présent dans le passé, chaque vie dans la mort, chaque souvenir dans l'oubli. Les Grecs avaient raison d'associer la mort au léthé, c'est-à-dire au fleuve de l'oubli. Notre mémoire sert de digue pour retenir les eaux de ce fleuve, dans une tentative d'éterniser le temps, une tentative de racheter le temps à la mort. Seulement la digue ne tient jamais longtemps, et le fleuve finit toujours par l'emporter. Cela est vrai non seulement au sujet de notre mort finale, mais aussi les innombrables petites morts qu'il annonce. Pour naître, il faut mourir au sein maternel, pour ne plus jamais y revenir. Pour aller à l'école, il faut mourir à la familiarité sécurisante de la maison. Pour se marier, il faut mourir à la famille nucléaire dont on est sorti. Pour aller habiter une nouvelle maison ou prendre un nouveau boulot, ou s'installer dans une nouvelle ville, il faut mourir aux anciens. Et quand nous vieillissons et que la mort emporte nos parents, notre famille et nos amis, ben il arrive parfois que rien ne les remplace.
sauf notre propre solitude. Nous mourons toujours seuls. On est toujours seul. La mort couronne la solitude secrète que nous avons héritée à notre naissance. La vie est une succession de petites morts, de morts anticipées, une succession de séparations. Même s'il y a quelque chose après la mort, et que ce quelque chose est pour nous un gain, ben nous ne le voyons pas encore. Nous ne voyons pas au-delà des murs de notre monde. De ce côté de la mort, nous ne pouvons dire qu'avec l'Ecclésiaste, c'est un livre de l'Ancien Testament, personne ne peut affirmer que le souffle de vie propre aux humains s'élève vers le haut, tandis que celui des bêtes doit disparaître dans la terre. De notre point de vue, nous ne savons pas. Nous ne pouvons pas dire que la mort d'un animal est différente de la mort d'un être humain. Tout ce que nous voyons sous le soleil, dit ce même auteur, c'est qu'un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. On dit qu'Alexandre le Grand s'est fait enterrer avec sa main ouverte qui pendait en dehors du cercueil, parce qu'il voulait montrer qu'il quittait ce monde comme il était entré, avec rien du tout. Il rendait témoignage à la parole de Job. J'étais nu quand je suis venu au monde, c'est nu que je le quitterai. Mais quel espoir nous reste-t-il si la mort est irréversible? Si les âmes et les civilisations, les mondes et les galaxies ne naissent que pour mourir, quel espoir? L'Ecclésiaste a dit, quel profit y a-t-il pour l'homme de tout le travail qu'il fait sur le soleil? Blaise Pascal exprime cette même idée. Le dernier acte est sanglant, quelque belle que soit la comédie en tout le reste. On jette enfin de la terre sur la tête, et en voilà pour jamais. Mais attendez. Il y a ici une énigme. Nous sommes choqués par le caractère irréversible, inéluctable de la mort. Alors que la mort nous est parfaitement familière, la mort est parfaitement universelle, parfaitement normale. Nous trouvons anormale une évidence normale, naturelle de notre condition humaine. C'est encore Pascal qui disait, c'est l'état qui nous est naturel, la mort. C'est l'état qui nous est naturel. Et toutefois, le plus contraire à notre inclination. Mais si l'état n'est pas une énigme, c'est peut-être notre inclination. C'est peut-être le désir de notre cœur qui est une énigme. Le cœur est plus mystérieux que la mort. C'est une énigme encore plus grande. Donc explorons pendant quelques minutes ce mystère plus grand. La mort est naturelle, nous la trouvons anormale. Regardons les deux moitiés de cette énigme. D'abord, la normalité de la mort. Dans la nature, la mort est essentielle à la continuation de la vie. Nous mangeons des animaux morts. Nous mangeons des plantes mortes dans la chaîne alimentaire. Des gens, des animaux, des plantes viennent à la vie, prennent vie pour remplacer ceux qui sont morts. La mort est l'engrais de la vie. Nous admettons cela. Quand vous entendez dire que quelqu'un est décédé, qu'est-ce que vous dites? Eh bien, c'est la vie. Et pourtant, cette nécessité biologique reste pour nous un scandale perpétuel. Mais pourquoi? Au nom de quoi est-ce que nous nous rébellons contre la mort? Qu'est-ce que nous voulons? Mais nous ne savons pas au juste ce que nous voulons. Mais nous savons que notre cœur veut autre chose, que le temps et la mort et un monde de cycles qui se répètent sans cesse. Voilà pourquoi nous continuons à demander, c'est tout ce qu'il y a? Il n'y a pas autre chose. Alors que notre expérience nous dit pour la énième fois, eh oui, c'est tout ce qu'il y a. C'est comme si on n'arrêtait pas de donner au petit rossignol qui vit au fond de nous-mêmes toutes sortes d'aliments, du canigou, du whiskas, des Big Mac. Alors qu'il dit, et lui il disait chaque fois, mais il n'y a pas d'autre chose. Parce que rien de ce qu'il reçoit ne ressemble à de la nourriture pour oiseaux. C'est comme si un enfant qui recevait un millier de cadeaux de Noël disait, après avoir ouvert chacun, il n'y a pas autre chose. Ou bien cet enfant est affreusement cupide et ingrat, ou bien quelqu'un lui a fait une promesse qu'il n'a pas encore tenue. Quelqu'un lui avait promis un chien, peut-être, ou un chat. Mais jusqu'ici, il n'a reçu que des jouets inanimés. Qu'est-ce que nous voulons, finalement? Au nom de quoi est-ce que nous protestons? C'est tout ce qu'il y a. Il n'y a pas autre chose. Est-ce que nous voulons simplement un peu plus de la vie que nous possédons déjà, comme le roi Béranger? Est-ce que nous voulons 10 ans de plus? 1000 ans de plus? 10 millions? Est-ce que nous voulons simplement un peu plus de canigou? Encore des jouets inanimés? Qu'est-ce que nous voulons? Pourquoi voyons-nous dans la mort le visage d'un ennemi? Mais je crois qu'il y a 2 raisons pour cela. La première raison est assez évidente. La deuxième raison est beaucoup moins évidente. Nous trouvons la mort anormale, premièrement, à cause de son caractère définitif, son caractère absolu et exceptionnel. Rien d'autre dans la nature n'est définitif. Tout revient en cycle, tout se reproduit, tout change. À la limite, les morts des autres peuvent nous paraître comme faisant partie des cycles de la nature. La mort d'une autre personne n'enlève de notre monde, de notre vie, qu'un seul élément. Par contre, quand nous mourons, tout disparaît. Nous et notre monde ne survivons pas à notre propre mort. Notre mort est donc le seul absolu dans un monde de vérité relative. Le seul événement absolument définitif dans un monde de cycles. La seule chose naturelle. Un phénomène naturel qui n'est pas naturel. Ça, c'est la première raison. La deuxième énigme de la mort semble avoir trait à ce que nous appelons la culpabilité. Les rêves, les mythes, la psychanalyse font souvent ressortir à la surface un profond sentiment de culpabilité lié à la mort. Mais qu'est-ce que cela pourrait bien signifier? La culpabilité liée à la mort. Il existe un autre mot apparenté à la culpabilité qui peut nous donner un indice. C'est le mot péché. Dans la Bible, le péché n'est pas tout d'abord la transgression d'une règle morale. C'est tout d'abord la séparation d'avec Dieu, le refus de son projet de vie, le rejet de sa volonté et le rejet de son amour. C'est la rupture d'un lien personnel avec Dieu. Pour la mort aussi est la rupture d'un lien. En fait, c'est la rupture de tous nos liens. Bon, afin de poursuivre cet indice, je vais vous demander encore de faire une petite expérience mentale. Supposons que Dieu existe. Supposons que la Bible a raison. La mort est entrée dans notre monde à la suite du péché. Non pas comme un châtiment arbitraire et cruel, le gendarme céleste en colère, mais comme un châtiment nécessaire, comme un châtiment inéluctable, comme la rencontre brutale que vous aurez si vous vous jetez du 10e étage de l'immeuble. En supposant que Dieu existe et que Dieu est la source de toute vie. De la même manière qu'un aimant est la source du magnétisme. Bon, je ne peux pas dessiner, mais je vais faire avec mes doigts. Supposons qu'il y a un anneau de fer qui reste magnétisé tant qu'il reste attaché à l'aimant, tant qu'il n'en est pas séparé. De même, l'âme humaine reçoit la vie tant qu'elle reste attachée à Dieu, qui est la source de la vie, tant qu'elle n'en est pas séparée. Mais supposons en plus qu'un deuxième anneau de fer est magnétisé tant qu'il reste attaché au premier anneau. D'accord ? On a un aimant, un premier anneau de fer qui est l'âme, et un deuxième anneau de fer qui est le corps. Et le corps aura la vie tant qu'il reste attaché à l'âme. Nous supposons en plus que le premier anneau est doté du libre arbitre et qu'il décide un jour de devenir un aimant autonome, hein, la source de son propre magnétisme. Donc, il se sépare du vrai aimant, c'est-à-dire l'âme pêche contre Dieu. Cet acte dirigé contre le vrai aimant entraînera des conséquences catastrophiques pour le premier anneau. Car il ne possède pas, hein, c'est pas un vrai aimant. Il ne possède pas le magnétisme en lui-même. Il ne lui reste un peu de magnétisme résiduel. Peut-être assez pour durer 70 ans ou 90 ans. Le premier anneau, le corps sera pendant ce laps de temps assez court, sera capable de rester attaché au premier anneau. Mais une fois ce magnétisme résiduel épuisé, qu'est-ce qui se passera? Le deuxième anneau se sépare du premier. Le corps, la mort du corps, est le résultat nécessaire du péché. Cette expérience suggère pourquoi nous nous sentons coupables au sujet de la mort. Nous nous sentons coupables pour ces deux séparations, le péché et la mort. Parce que ces deux séparations sont liées l'une à l'autre dans une relation de cause à effet. Et nous nous sentons coupables parce que c'est nous qui avons fait entrer la mort dans le monde. Il nous arrive parfois de voir un lien direct et personnel entre le péché et la mort. Le premier décès de l'histoire, d'après le livre de la Genèse, c'était un meurtre. Caïn a tué son frère Abel. Et bien sûr, il y a toutes sortes de façons de tuer quelqu'un, d'assassiner quelqu'un. L'apôtre Jean dit, quiconque est son frère est un meurtrier. Une légende musulmane raconte l'histoire d'un homme à qui Allah promet d'exaucer les deux premiers souhaits, les deux premiers désirs exprimés spontanément par son cœur. Alors cet homme lève les yeux, la première chose qu'il voit, c'est la maison de son voisin. Il ressent de la jalousie, la maison est détruite instantanément. L'instant après, un petit enfant qui passait en courant lui rentre dedans par accident et tombe mort à ses pieds. Avec horreur, l'homme se rend compte que les désirs de son cœur avaient été exaucés. Si la mort est effectivement une conséquence, un symptôme, un signe du péché, alors nous sommes encore plus mal partis que nous l'avions pensé. Nous voyons dans chaque mort non seulement une défaite par un ennemi plus fort que nous, nous voyons aussi notre propre culpabilité. Et ça, c'est encore pire qu'une défaite. Nous préférions être tués qu'être tueur. Quelle mère voudrait que son fils devienne collabo et qu'il tue ses compatriotes, qu'il les torture plutôt que d'être tué lui-même? Il se peut qu'un lâche vivant vaille mieux qu'un héros mort, tout comme un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Par contre, un meurtrier vivant ne vaut jamais mieux qu'un martyr mort. Nous sommes plus effrayés par le cauchemar d'être un monstre que par le cauchemar d'être poursuivi par un monstre, car il serait impossible d'échapper au monstre qui est en nous. Alors que nous pouvons échapper à un monstre, même s'il nous attrape, nous pouvons lui échapper, parce qu'il ne peut pas nous atteindre à l'intérieur. Il ne peut pas atteindre le moi profond. Et voici que maintenant, nous découvrons que nous sommes des monstres. Nous sommes des tueurs. C'est nous qui avons fait entrer la mort dans le monde. Ben, ce serait très difficile de tomber plus bas que cela. Et pourtant, même au fond de nos ténèbres, même au fond du désespoir le plus profond, il y a peut-être quelque chose qui ressemble à une lumière. Il y a peut-être la possibilité de l'espoir. Où est cet espoir? George MacDonald, un romancier écossais, disait « Ah, je ne voudrais pas perdre ma culpabilité. Dans ma culpabilité se trouve mon espoir. » Mais qu'est-ce que cela pourrait bien signifier? Søren Kierkegaard, dans son livre « Ou bien », donne au dernier chapitre un titre assez curieux. C'est assez long. L'édification que nous procure la pensée d'avoir toujours tort à l'égard de Dieu. Mais qu'est-ce que cela pourrait bien signifier? Dans une de ces pièces qui s'appelle La Cocktail Party, je crois, T.S. Eliot fait dire à un des personnages féminins ceci. Et d'abord, je dois vous dire que j'aimerais vraiment croire que quelque chose est détraqué en moi. Parce que sinon, c'est dans le monde lui-même qu'il y a quelque chose de détraqué. Et c'est beaucoup plus effrayant. Qu'est-ce que cela pourrait bien signifier? Cela signifie que notre espoir ne se trouve pas en nous-mêmes, ni dans notre innocence prétendue, ni dans notre santé mentale. Notre espoir se trouve dans quelque chose de plus grand que nous, dans la réalité objective qui donne un sens à notre vie. Même si nous sommes défaits La réalité, elle, ne l'est pas. Dire que mon espoir réside dans ma culpabilité, dans ma folie, dans mon détraquement, cela veut dire que dans le grand procès, dans le grand débat entre moi et la réalité, c'est la réalité qui a raison et c'est moi qui ai tort. Ce n'est pas la réalité qui est coupable ou détraquée. C'est moi. Placer la faute sur lui-même, exactement comme le fait le récit de la Genèse, l'histoire d'Adam et d'Ève, eh bien c'est acquitter la réalité. C'est acquitter Dieu, c'est acquitter la vérité. Et cela veut dire, il nous reste encore la possibilité d'être réconciliés avec la réalité. Si c'est nous qui sommes détraqués, si c'est nous qui sommes fous par rapport à la réalité, alors il y a de l'espoir. Nous pouvons être guéris. Par contre, si c'est la réalité elle-même qui est détraquée, il n'y a plus aucun espoir. Si la vérité elle-même est fausse, si la réalité elle-même est irréelle, si le bien lui-même est mal, si Dieu est en réalité le diable, si la vie elle-même est responsable de la mort, il n'y a aucun espoir du tout. Bernard-Henri Lévy disait, s'il n'y a plus de péché, c'est l'âme qui est le crime. S'il n'y a plus de rédemption, c'est la vie qui est l'expiation. Si Dieu n'est plus le maître, c'est toujours la mort qui gagne. Il y a donc de l'espoir. Il y a de l'espoir parce que nous sommes coupables. La culpabilité, c'est là, c'est notre espoir. La mort n'est pas normale. La vie n'est pas responsable de la mort. Il y a de l'espoir justement parce que nous sommes coupables de la mort. Et parce que Dieu a prévu un plan de sauvetage. Mais ça, c'est une autre histoire.
Merci Max pour les pensées.